Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Дневники мира.
Европана.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cet avant-dernier jour de l'année. On tourne une nouvelle page des carnets ensemble pour explorer la vie des autres dans le monde et notamment des traditions de fin d'année. On va commencer comme ça avec quelques correspondants d'Europe 1. Xavier Yvon nous attend à New York pour nous expliquer ce que c'est que Kwanzaa. Hélène Kohl nous attend à Berlin pour nous raconter comment elle se prépare à la nuit de demain. C'est la folie des pétards et des feux d'artifice en Allemagne jusqu'à la démesure. Bernard Delattre nous attend à Tokyo, au Japon, où un nombre incroyable de rituels servent à chasser les mauvais esprits pour commencer la nouvelle année tranquille. Et puis nous découvrirons une belle tradition islandaise de Noël qui place un cadeau au-dessus de tous les autres, ce sont les livres. Et après cette grande page culturelle, je vous proposerai de réécouter quelques-uns des grands reportages qui ont émaillé ce début de saison dans les carnets. On en a choisi trois, le premier lié au réchauffement climatique, sujet qui ne cessera plus d'être d'actualité. En l'occurrence, on verra comment certains replantent des arbres au Kenya pour recréer un écosystème favorable à l'agriculture, à l'élevage, bref, à la vie. Puis on reprendra ce débat récurrent et toujours intéressant. Peut-on simplifier l'orthographe et la grammaire ? Ensuite, je vous emmènerai dans le sud Sinaï pour faire un petit bout de l'une des plus grandes randonnées du monde, guidée par des bédouins. Enfin, Joseph Chovanec bouclera l'émission comme d'habitude. Il sera question d'hospitalité. Les carnets du monde sont ouverts. Soyez les bienvenus. Pour les fêtes de fin d'année, on parle souvent de bons repas, des 12 coups de minuit. Quand on peut, on s'embrasse sous le gui. Mais partout dans le monde, il y a foule de traditions qu'on ne connaît pas et qui rassemblent les familles, les amis, les communautés. On va en découvrir quelques-unes avec nos correspondants. Xavier Yvon aux États-Unis et Hélène Kohl en Allemagne sont en ligne avec nous. Bonjour les amis.
Bonjour.
Hello,
à tous.
Sophie. Bonjour à tous.
On commence avec vous, Xavier. Vous êtes à New York et chez vous, en plus de Noël et du Nouvel An, il y a Kwanzaa. Kezako Kwanzaa.
Bah, figurez-vous que je me suis posé exactement la même question l'année dernière en allant chercher ma fille à la crèche dans mon quartier à Brooklyn. Vous savez, à New York, à cette période de l'année, il y a des sapins de Noël et des chandeliers de Hanouka, la fête juive, un peu partout, dans les halls d'immeubles, dans les magasins, dans les écoles et donc dans les crèches. Et dans le hall, il y avait en plus un autre chandelier posé sur un tissu africain aux couleurs vives, rouge, vert et noir. Et j'ai demandé donc ce que c'était et j'ai entendu pour la première fois ce mot Kwanzaa. Donc j'ai dit, what is this, hein, l'équivalent américain de votre Kezako.
Et alors, qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Eh bien qu'en fait, il s'agit d'une fête afro-américaine. Kwanzaa a été créée dans les années 60, en plein combat pour les droits civiques, par un noir américain, Maulana Karanga. Il est professeur d'études panafricaines à l'Université de Californie. Ouais. Kwanzaa, ça vient du Swahili, d'une phrase qui parle des premiers fruits, et c'est basé sur les fêtes des premières récoltes en Afrique. L'idée, c'était de créer une fête pour reconnecter avec les racines africaines et célébrer la culture du continent noir. D'ailleurs, c'est une fête qui est destinée à toute la diaspora africaine. Elle est célébrée partout dans le monde. Ses promoteurs disent qu'en tout, une trentaine de millions de personnes fêtent Kwanzaa. Il y a un sondage, mais alors il y a un sondage aux États-Unis qui montre qu'en fait, c'est plutôt autour de 4 millions. Qu'importe, c'est une fête qui s'est imposée dans le paysage. Elle a eu droit à un timbre il y a 20 ans. Mmh. Et même les présidents Bill Clinton et George W. Bush ont marqué le coup pendant leur mandat.
Pas mal. Comment ça marche ? Comment on fête Kwanzaa ?
Alors, ça dure 7 jours, du 26 décembre au 1er janvier. Il y a 7 bougies à allumer. Ouais. Chaque jour, on fête une valeur différente. Elle est nommée avec un mot africain. Je vous le traduis. Il y a unité, autodétermination, responsabilité collective, économie coopérative, but dans la vie, créativité et foi. Et le 31 décembre, eh bien, c'est le jour des cadeaux. Alors, l'idée, c'est d'offrir des choses qu'on a faites généralement soi-même et que ça soit en relation avec l'héritage africain.
Ça ressemble un petit peu à Hanouka, un petit peu à Noël. C'est religieux ou pas ?
Alors non, justement, c'est pas religieux, c'est la célébration d'une culture, de certaines valeurs, et d'ailleurs c'est pas réservé aux Noirs américains, tout le monde a le droit de fêter Kwanzaa. Chaque année dans la presse, vous avez des articles pratiques pour expliquer quels sont les rituels à suivre, comment décorer sa maison avec des tissus africains, des fruits, ça c'est important. Vous avez des stars qui fêtent Kwanzaa, il y a la papesse de la télévision américaine, Oprah Winfrey, ou encore l'actrice Angelina Jolie. Et donc ça se fait aussi dans les fêtes de fin d'année chez moi à Brooklyn. La semaine dernière par exemple, lors du spectacle de fin d'année à la crèche, les maîtresses ont entonné la chanson de Kwanzaa.
Kwanzaa, Kwanzaa,
Voilà, et maintenant, moi, je sais ce que c'est, je ne dis plus Kezako.
Ben nous non plus, on ne le dira plus, en tout cas pas pour ça. Merci Xavier, restez avec nous, on bascule vers Berlin avec vous, Hélène Kohl. Et pour observer une tradition qui est remise en question aujourd'hui, c'est celle des pétards et des feux d'artifice de la Saint-Sylvestre en Allemagne.
Oui, alors là, on ne parle pas des feux d'artifice officiels, hein, au-dessus de la porte de Brandebourg, par exemple, à Berlin, mais cette tradition qui veut que l'on célèbre la nouvelle année en allumant soi-même des pétards, des feux de Bengale ou des engins pyrotechniques plus ou moins dangereux, parce qu'autrefois, on ne pouvait s'en procurer que dans certains magasins, et seulement deux jours avant le 31 décembre, avec des tailles et des quantités de poudre réglementées. Désormais, avec Internet, tout ça, c'est caduc. Chaque année, on bat des records de quantité de pétards achetés pour un résultat explosif au sens propre entre 23h45 et 2-3h du matin partout dans le pays.
Et ça donne à peu près ça. C'est énorme, hein ? Et ça, c'est enregistré au coin de votre rue à Berlin.
Oui, dans un quartier qui est réputé résidentiel, calme et familial. Hein. Alors, les plus sérieux se mettent au bord d'une petite pièce d'eau dans un parc pour allumer leur petit feu d'artifice. Mais la plupart du temps, en fait, ça se passe directement sur le trottoir, devant les bars, depuis les balcons, dans une ambiance évidemment alcoolisée, sans aucune règle de sécurité, ni aucune règle de bon sens. On va tirer sur les voitures qui passent, sous les abribus, dans les bus même, sous les porches, à l'horizontale, contre les immeubles
c'est
en face.
Dangereux.
C'est ainsi. Exactement, c'est ainsi qu'il y a deux ans, l'une de mes vitres a volé en éclats. Et dans les quartiers populaires, par exemple, dans les grands ensembles, ça peut vraiment dégénérer.
Ouais, vous m'avez montré une vidéo tournée dans un quartier de Berlin, c'est vraiment impressionnant. Hein.
Ouais, si bien qu'il y a trois ans, pour le tout premier nouvel an, après la grande vague d'arrivée des réfugiés, certaines associations ont fait de la prévention en amont auprès des enfants syriens notamment, pour leur expliquer que c'était pas la guerre en Allemagne, c'était juste pour rire. Enfin, tout de même, tous les ans, il y a des blessés, des grands brûlés, des gens qui ont des membres arrachés. Wow. Il y a même aussi des morts.
Alors, on comprend que la tradition ait du plomb dans l'aile, si j'ose dire.
Ouais, mais en fait, c'est même pas cet argument qu'utilisent les opposants aux pétards. Après tout, bon, chacun sait ce qu'il risque en participant à cette grande anarchie. En fait, non, ils s'attaquent à la pollution qui touche, elle, absolument tout le monde, même ceux qui restent calfeutrés chez eux. Puisqu'imaginez qu'en une heure, les Allemands envoient dans l'air 5000 tonnes de particules fines. Ça représente 17% de la pollution automobile de toute une année.
De toute une année, c'est incroyable.
Ouais, et en plus, les experts sont formels. Avant que l'air soit débarrassé de ce smog toxique, il faut attendre la fin du mois de février.
Oh, c'est fou. Et ça apparaît finalement tellement paradoxal que les Allemands qui au quotidien sont plutôt du genre écolo, c'est leur réputation, tombe dans le panneau.
En fait, c'est une attitude complètement schizophrène que je ne comprends pas non plus. Alors, on le sait bien quand même ici, hein, il y a l'industrie automobile qui triche avec ses chiffres des émissions pour continuer à nous empester avec ses grosses berlines de luxe. Il y a aussi les fameuses centrales à charbon ultra-polluantes. Donc, on sait, l'Allemagne n'est pas exemplaire. Mais vous avez raison, la population, en fait, elle, elle fait partie des plus sensibilisés de la planète. Vélo, agriculture bio, locale, tri des déchets. Ouais. Les Verts, il faut le rappeler quand même, ils sont à 20% ici. C'est le premier parti dans les villes allemandes. Mais le 31 décembre, alors tout ça semble oublié, envolé, évaporé, sauf bien sûr ces microparticules qui restent là.
Est-ce qu'il y a débat au moins, Hélène ?
Alors quand même un petit peu depuis quelques années. Les défenseurs de l'environnement sont quand même tous d'accord, ce serait plus efficace à long terme de s'en prendre au lobby de la bagnole, de la grosse voiture allemande, aux centrales à charbon. Mais l'idée d'une interdiction pure et simple de tous ces feux d'artifice privés la nuit du Nouvel An fait son chemin. Mmh. Ça ferait aussi de belles économies puisque par exemple en 2016, les Allemands ont brûlé en pyrotechnique pas moins de 137 millions d'euros. À titre de comparaison, le grand plan du gouvernement contre la pollution en ville est doté, lui, d'une enveloppe de 12 millions d'euros, 10 fois moins. Wow. Alors c'est un débat qui est pour l'instant assez petit, limité à la société civile, car à part quelques écolos, la politique ne s'est pas vraiment saisie du sujet.
Xavier, à New York, vous vouliez dire un mot à ce sujet ? Les pétards, les feux d'artifice ?
Oui, parce que ça fait écho à ce qu'on vit ici. Alors, pas le 31 décembre, mais le 4 juillet, c'est le jour de la fête nationale américaine. Ouais. C'est vraiment la fête des pétards. Nous, on n'a jamais eu aucune réglementation ici. Vous envoyez des pétards et des feux d'artifice qui sont vendus partout au bord des routes. Il y a des étals qui fleurissent. Ouais. Et puis, c'est la même chose. Hein, c'est fait un peu n'importe comment. On les fait exploser devant la maison, dans le jardin. Et en 2017, il y a eu 8 morts et 13 000 blessés à cause des pétards.
Énorme. Bon, Hélène, vous, c'est demain. Alors, on vous dit quoi ? Bonne chance pour demain soir.
Oui, merci. Je vous dis bonne glissade à tous. Voilà.
Bonne glissade.
Guten Rutsch, la glissade, voilà. C'est ce qu'on se dit ici, la glissade vers la nouvelle année. Parce qu'après minuit seulement, on échange les vœux.
Bon, bah, très bien. On ne dira plus what is that, Kezako, what is this, etc. What is das. Et on se dit bonne glissade à tous, donc. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà, merci, les glissade. Amis.
À bientôt, Sophie.
À bientôt.
En Islande aussi, on tire des tas de pétards le 31 décembre, mais c'est pour découvrir une autre tradition qu'on ira tout là-haut dans le Grand Nord pendant Noël et les vacances qui suivent, le livre est roi. Je vous emmène aussi découvrir les rites de fin d'année au Japon. À tout de suite.
Europe 1.
Très bon dimanche, vous écoutez Europe 1, suite des Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer. Ensemble, nous découvrons des traditions de fin d'année ailleurs dans le monde.
Après Kwanzaa aux États-Unis et la tradition des pétards en tout genre en Allemagne, c'est au Japon qu'on poursuit notre exploration des rituels de fin d'année. À Tokyo, on rejoint Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Japon. Comme souvent, votre pays d'adoption regorge de rituels très différents de ce qu'on connaît ici. Et en particulier des rituels à caractère religieux quand arrive la fin de l'année.
Oui, car la plupart des Japonais sont très croyants. Ils sont bouddhistes, mais souvent aussi, et en même temps, shintoïstes. Le shinto, qui est la religion ancestrale nippone, compte une foule de divinités. Et les vénérés promettraient la santé, la fertilité, la prospérité, etc.
Parmi ces rituels, il y a notamment l'équivalent de notre grand nettoyage de printemps.
Oui, ici, on doit avoir nettoyé de fond en comble sa maison avant le 31 décembre pour la purifier de toute la saleté accumulée pendant un an. Et donc, accueillir proprement le Toshigami, ce sont les divinités de l'an 9. Une fois que tout a bien été nettoyé, on décore le seuil de sa maison, notamment avec des branches de pin ou de bambou, une corde en paille de riz et une orange amère. Ce sont des symboles de bon augure. Ces décorations empêcheraient l'intrusion des mauvais esprits dans la maison. C'est aussi le but d'un autre rituel, Setsubun, qui lui a lieu un peu plus tard, le 3 février. Les Japonais balancent à toute volée des haricots de soja dans leur maison et depuis la porte d'entrée. Et ils le font en répétant des incantations sacrées.
C'est malin. Maintenant, ils sont bons pour refaire le ménage de fond en comble. Revenons au 31 décembre. Vers minuit, Bernard, tout le monde va au temple bouddhiste.
Pour prier au son des cloches que l'on fait sonner 108 fois.
108 fois ?
Oui, 108 fois, parce que le bouddhisme enseigne que l'homme est tenté par 108 passions terrestres, comme le désir, l'attachement, la haine, la jalousie, la colère, etc. Moi, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent des 7 péchés capitaux chrétiens. Cette cérémonie permettrait de se purifier de ces poisons spirituels avant d'entamer la nouvelle année.
Décidément.
Dans certaines villes, de grandes courses sont organisées. Tous les jeunes s'affrontent. Le but, c'est d'arriver le premier au sanctuaire Shinto, après avoir sprinté dans toute la localité. Et les coureurs arrivent tellement vite au sanctuaire que les prêtres sont obligés de faire barrage de leur corps. Sinon, ces jeunes défonceraient tout dans leur élan. Et puis, alors, à la montagne, il y a aussi des gens qui se purifient en allant prier quasiment nus sous des cascades d'eau glacée.
Curieuse méthode. Je ne vous envie pas complètement. Alors, par ailleurs, Bernard, il y a un de ces rituels japonais qui vient d'être inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial. Racontez-nous.
Oui, des Raihoshin. Ce sont des hommes qui, au nouvel an ou au changement de saison, se déguisent pour prendre l'apparence de créatures divines très effrayantes. Exorbités, nez crochus, grandes dents, etc. Puis, ils pénètrent dans toutes les maisons en gesticulant, en hurlant et en essayant de mettre de la boue ou de la suie sur les visages des enfants.
Oui, mais ces personnages terrorisent les enfants, justement.
C'est vrai, et c'est fait exprès. Figurez-vous qu'ici, Sophie, faire pleurer les enfants, c'est jugé très bénéfique. Selon la croyance, les hurlements des gosses, c'est un gage de bonne santé, de leur bonne santé. Ça rappelle un peu le cri primal des nouveau-nés. En plus, leur cri éloigne les mauvais esprits, car ils sont censés atteindre Dieu. D'ailleurs, au Japon, on organise des concours de pleurs d'enfants.
Quoi ?
Oui, des concours de pleurs d'enfants. Des compétitions entre mouflets, âgés de 6 à 18 mois, que d'énormes sumo patibulaires ou des prêtres grimaçants effrayent le plus possible. Et le gagnant, c'est le bébé qui a le plus pleuré et hurlé de peur. Lui, il a l'assurance d'avoir une longue vie.
Les pauvres petits, faire pleurer exprès les bébés. Ils sont bizarres quand même parfois, les rituels chez vous, Bernard. C'est bizarre. En tout cas, s'il reste encore un seul mauvais esprit après tout ça, c'est vraiment, vraiment un dur à cuire. Merci beaucoup en tout cas, Bernard, pour toutes ces explications. Et puis à tout bientôt en 2019.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Je suis sûre que vous allez tous adorer la dernière tradition qu'on a choisi de mettre en lumière aujourd'hui. Ça se passe en Islande. C'est une tradition liée à Noël qui s'appelle Jólaboka Flood. En gros, ça veut dire inondation de livres pour Noël. J'ai demandé à un Islandais qui s'appelle Eyjolfur. Il est prof de français, directeur de langue de l'Université d'Islande. Je lui ai demandé de nous raconter en quoi consistait Jólaboka Flood. Écoutez sa réponse.
Alors, Jólaboka Flood, la traduction, en fait, ça serait donc le déluge de livres à Noël. Bah, c'est une longue tradition en Islande d'offrir un livre pour Noël, comme cadeau de Noël. Les Islandais, ils lisent beaucoup et puis surtout, ils écrivent beaucoup. Nous avons beaucoup d'écrivains. Donc, offrir un livre pour Noël, c'est une tradition qui se respecte encore.
Oui, c'est un peu la star des cadeaux de Noël, quoi.
Voilà, exactement. Mm. Du coup, la plupart des titres, la grande majorité des titres, sort en novembre et décembre. Ce qui est intéressant, mais en même temps, pour les petits auteurs qui essayent de percer, quand tous les livres sortent en même moment, c'est un peu plus difficile.
C'est un peu l'équivalent de notre rentrée de fin août, début septembre. Et je crois que chaque foyer reçoit gratuitement dans sa boîte aux lettres en novembre ce qu'on appelle le Bocati d'Indi. C'est ça ? C'est un catalogue ?
Oui, c'est correct. C'est un catalogue avec tous les titres. Donc, chaque membre de la famille peut déjà cocher les titres qui l'intéressent. Mmh. Et comme ça, on sait à peu près quel livre on peut offrir à chacun.
Et ensuite, vous passez toutes les vacances de Noël à bouquiner tous ?
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Donc, l'hiver en Islande, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est noir, c'est froid, c'est surtout très long.
Ouais.
Et puis, la veille de Noël, c'est le 24 de décembre. Mmh. Et on ouvre donc, les cadeaux à ce moment-là, le soir. Et puis la soirée et la nuit, on passe très souvent à lire jusqu'à très tard. Même les enfants, ils ont le droit de rester éveillés quand on entend jusqu'à tard pour bouquiner.
On se met autour de la cheminée quand il y en a une et tout le monde bouquine, quoi.
Oui, par contre, bon, on n'a pas de cheminée parce qu'on n'a pas de bois. Donc, il n'y a pas d'arbres en Islande, pas de cheminée, mais on a plein de géothermie. Donc, il fait chaud, on reste à l'intérieur à bouquiner.
Il faut rappeler qu'en Islande, encore un peu plus qu'ailleurs, il fait nuit presque tout le temps l'hiver.
Voilà, c'est ça. En ce moment, nous avons environ 4 heures où il fait clair. Entre 11 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Quoi.
Super.
À 4 heures, il fait déjà nuit.
Ouais.
Et là, c'est le moment où on attend patiemment de recevoir un livre pour Noël.
Est-ce que vous avez d'autres traditions qui sont liées comme ça à ces longues nuits qui se prolongent dans la journée ?
Ben, les Islandais sont beaucoup moins en hiver, on reste plutôt tranquille à la maison, donc on lit, on tricote beaucoup.
Les hommes tricotent aussi.
Voilà. Oui, moins que les femmes, mais ils tricotent aussi.
Formidable, très bien. Ok, donc on lit, on tricote, et je crois que vous avez aussi 13 trolls qui se promènent de maison en maison quelques jours avant Noël, non ?
Oui, c'est ça. Le Père Noël islandais, ils sont 13. Hein ? Et c'est des espèces de lutins, ils sont un peu malins, parfois ils volent des objets et font des bêtises, comme ça. Mmh. Mais ils laissent aussi un petit cadeau pour les enfants. Ils passent la nuit en général.
Mmh.
Donc 13 jours avant Noël, les enfants, ils mettent leurs chaussons à la fenêtre.
Ouais.
Et donc chaque matin, on réveille un petit cadeau, un petit bonbon, quelque chose.
Il paraît que pour ceux qui n'ont pas été sages, ce sont plutôt des pommes de terre pourries.
Voilà, c'est ça. Mais la mère de Père Noël s'appelle Grilla. Bon, c'est une troll qui mange les enfants qui ne sont pas sages.
Ah oui, ça c'est moins chouette.
Ah ouais, non, elle est vachement méchante, hein, elle.
Eyjólfur Vur, directeur du Centre de langue de l'Université d'Islande. C'est sur ces images de trolls islandais, des Pères Noël locaux, que l'on referme cette page spéciale sur les traditions de fin d'année ailleurs dans le monde.
Europe 1.
À suivre, on va réentendre ensemble trois grands reportages diffusés depuis la rentrée. Le premier évoque la question du réchauffement climatique. La déforestation en est une cause. Mais certains cherchent et trouvent des solutions. On va filer au Kenya où l'on replante. A tout de suite.
Europe 1.
Bel après-midi, vous écoutez Europe 1, les carnets du monde avec Sophie Larmoyer et nous prenons maintenant la direction du Kenya.
Les phénomènes climatiques font de plus en plus souvent la une de l'actualité. Ces derniers mois, on a vu des inondations terribles, notamment en France. On se rappelle aussi des immenses incendies de l'été en Californie, en Grèce, en Suède. Des feux qui aggravent notamment le phénomène de déforestation. C'est un enjeu énorme qu'on a choisi d'illustrer au Kenya. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, avant l'indépendance, les forêts recouvraient 12% du territoire. Aujourd'hui, c'est 7% seulement. Du coup, les sécheresses se multiplient, assèchent de plus en plus les terres fertiles. L'eau ne s'infiltre plus dans le sol et les cultures se meurent. Les populations ont de plus en plus de mal à se nourrir, ainsi que leur bétail. Et puis certains trouvent des solutions. En septembre, on vous avait présenté celle de l'entreprise Better Globe Forestry, qui depuis 3 ans s'efforce de reboiser des régions arides. Le secret de la réussite, c'est qu'elle implique les populations locales qui deviennent les principales bénéficiaires de la reforestation. C'est Charlotte Simonard qui nous avait proposé ce reportage qu'on réécoute ensemble aujourd'hui. La région de Kiambere, au nord-est de Nairobi, se situe en plein cœur du Kenya. Une région aride, difficile d'accès. Ici, la terre rouge d'Afrique a laissé place à la poussière. Des arbustes épineux ont envahi les collines au gré des sécheresses et de la déforestation. Simon Willis est l'une des figures du petit village de Ngungani. Cet homme de 53 ans, qui possède 28 hectares de terre, s'est toujours inquiété pour ses vieux jours.
Les agriculteurs dans cette région doivent affronter beaucoup de difficultés, comme la météo. Lorsque l'on plante, on n'est jamais sûr d'avoir de la pluie. Notre revenu varie d'une saison à l'autre.
En 2015, Better Globe Forestry le convainc de planter 275 acajou sur ses terres. L'entreprise lui offre les plants et une formation. Au terme du contrat, chaque tronc sera acheté par la compagnie 10% de plus que le prix du marché. Un arbre devrait alors rapporter 70 euros, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de salaire moyen pour un agriculteur au Kenya. Yann Van Den Abel est directeur forestier en charge du programme de Better Globe Forestry.
C'est un programme où on leur donne les arbres, les plançons et on leur garantit le marché. On va acheter le bois, mais seulement le tronc. Il ne faut pas oublier qu'ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz. Donc, la première source d'énergie, c'est le bois.
Résultat, il ne reste plus rien des arbres qui boisaient la région il y a 20 ans encore. Pour endiguer ce phénomène, Better Globe Forestry a choisi l'acajou, un arbre indigène bien connu des populations et surtout résistant à la sécheresse. Au-delà des bénéfices qu'il percevra dans 15 ans, Simon y trouve déjà son compte.
L'acajou n'a pas besoin de beaucoup d'eau. En plus, ces arbres enrichissent la terre et ils nous fournissent du bois pour le feu.
Depuis qu'il a planté ces arbres, manguiers et bananiers s'épanouissent à nouveau sur ces terres. Aujourd'hui, 2200 fermiers bénéficient du programme, mais il a fallu les convaincre. Ambrose Musango est agent agroforestier pour Better Globe Forestry.
Les habitants ici se moquent de la protection de l'environnement. Ce qu'ils veulent, c'est le profit. Au début, ils ne nous faisaient pas confiance. Ils nous disaient, vous venez nous promettre de l'argent et vous allez disparaître un jour, comme le font certaines ONG. Mais on est ici depuis 3 ans et aujourd'hui, ils nous font confiance.
En tout, près de 300 000 acajou ont ainsi été plantés sur les terres arides du pays. À quelques kilomètres de là, c'est tout un village qui est en train de changer grâce aux acajou de la compagnie. L'accueil et les sourires sont chaleureux. Pourtant, ces villageois vivent dans une pauvreté extrême. Leur maison de terre et de paille abrite une dizaine de familles. Quelques chèvres et de maigres cultures leur permettent à peine de se nourrir. Les 31 paysans du village ont planté plus de 3000 acajou et se sont réunis en association pour s'entraider. Agnès, 38 ans, en est la présidente.
Ce projet de plantation d'acajou nous a soudés. Avant, chacun était dans son coin, on ne se parlait pas. Maintenant, on est réunis autour de ces arbres. On a même décidé de créer une cagnotte commune pour acheter des chèvres et pouvoir se prêter de l'argent. Aujourd'hui, on chante et on danse tous ensemble.
Avec ce programme, les agriculteurs du village ont aujourd'hui pris conscience de l'importance de l'environnement pour leur survie. Better Globe Forestry compte installer bientôt une usine de transformation dans la région pour valoriser le bois des populations locales, parquets et meubles en kit destinés à l'exportation vers l'Europe. Des milliers d'emplois directs et indirects devraient être créés. Dans la région de Kiambere, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et pour bien comprendre les enjeux de la reforestation, pas seulement au Kenya, mais partout dans le monde, on avait appelé Tristan Lecomte. Il est le créateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Pure Projet, qui porte des programmes liés aux enjeux climatiques. Il est devenu une sorte d'expert en forêt. Je lui avais d'abord demandé quelle superficie de forêt disparaissait chaque année, Tristan Lecomte.
Donc chaque année, plus de 13 millions d'hectares disparaissent, ce qui représente 10 millions d'arbres détruits chaque jour.
Waouh, c'est énorme.
C'est un enjeu énorme, oui.
Les incendies ne sont pas du tout la cause principale de déforestation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un facteur aggravant. Le problème numéro un, c'est la conversion en terre agricole.
C'est la production de produits agricoles et à 60% d'ailleurs à destination de l'alimentation animale. Ouais. Donc le principal de notre empreinte forêt, c'est notre consommation de produits carnés, en particulier de bœuf. C'est là-dessus qu'on peut jouer si on veut réduire son empreinte sur la forêt en premier, beaucoup plus que le papier ou le bois.
Manger moins de steak. On pourrait tenter de dire, Tristan Lecomte, il faut bien manger. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler en deux mots pourquoi c'est grave la perte des forêts, tout simplement ?
Comme on le voit dans votre reportage, les forêts, c'est à la fois un enjeu environnemental. Ils séquestrent du carbone, mais aussi ils enrichissent les sols. Ils permettent à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Ils sont au cœur du cycle de l'eau. Mais ils sont aussi des ressources économiques. Il y a plus de 100 bénéfices liés à la plantation d'arbres, à la fois économiques, sociaux, environnementaux. Et il est fondamental de les garder sur Terre parce que c'est eux qui permettent d'équilibrer la vie humaine sur Terre. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de précipitations ou des problèmes de régulation aussi du climat, etc. Donc ils sont au cœur de la vie et c'est l'allié idéal de l'homme.
La solution pour replanter les 10 millions d'arbres qu'on coupe chaque année, c'est pour inverser la tendance, c'est d'impliquer le maximum de monde et notamment ceux qui ont des sous, donc les grandes entreprises, c'est ce que vous faites en quelques mots, hein ?
Tout à fait. Nous, avec Pure Projet, on aide les grandes entreprises à intégrer la dimension du climat à l'intérieur de leur chaîne de valeur, de leur filière, en plantant des arbres, par exemple, là où ils achètent des produits, parce que non seulement ça va leur permettre de réduire leur empreinte climatique, mais aussi de rendre leur filière plus résiliente et plus forte, donc de sécuriser les approvisionnements en quantité et en qualité. C'est dit dans le reportage d'ailleurs au Kenya, de plus en plus on se rend compte qu'on est dépendant de notre écosystème, et donc investir dans cet écosystème, c'est pour notre propre bien-être.
Voilà, des enjeux essentiels pour ceux qui voudraient en savoir plus. On trouve une mine d'informations sur le site de l'entreprise de Tristan Lecomte à l'adresse pureprojet.com.
Europe 1.
À suivre, faut-il simplifier l'orthographe, modifier nos règles de grammaire ? L'accord du participe passé a fait couler pas mal d'encre à la rentrée dernière.
Europe 1.
Profitez bien de votre dimanche après-midi à l'écoute d'Europe 1. Et peut-on toucher à l'orthographe, aux règles de grammaire ? C'est un débat récurrent qui agite la francophonie. Ce sont les Belges qui ont relancé le débat en septembre dernier. Les Belges qui voudraient simplifier la règle d'accord du participe passé. À l'origine de ce nouveau débat, qui n'est sûrement pas le dernier, deux anciens profs soutenus par des linguistes. Ils s'appellent Arnaud Hout et Jérôme Piron. Et ils ont monté un spectacle qui cartonne en Belgique et en France. Ça s'appelle « La convivialité ». Le spectacle est suivi d'un débat avec la salle sur notre rapport à l'orthographe. Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, a vu la pièce et elle nous disait avoir été retournée carrément. Écoutez.
J'avoue, hein, même si évidemment je fais moi-même des fautes, je fais la grimace quand j'en lis chez les autres et je suis fière de maîtriser la grammaire. Donc quand des amis ont insisté pour que je voie absolument ce spectacle, j'y suis allée par curiosité, mais j'étais très sceptique. Et voilà, je dois dire que les deux profs comédiens m'ont carrément fait réfléchir. Comme une grande partie du public d'ailleurs, au fil des minutes, on sent que les spectateurs sont en train d'adhérer. Tant l'argumentation est efficace, tant on réalise l'absurdité de certaines règles. Écoutez ce court extrait sur les groseilles.
Traditionnellement, la confiture de groseille prend un S à groseille parce qu'en gros, on aperçoit la forme des fruits. Alors que la gelée de groseille, qui est une masse informe, ne prend pas S à groseille. Donc des fruits, un S, pas de fruits, pas d'S. Donc la présence du S dépend du temps de cuisson.
C'est drôle, mais c'est surtout... La justification est véridique, c'est ça qui est dingue.
Oui, absolument véridique. Hein. Et ce qui est percutant aussi, c'est la comparaison avec d'autres langues. Alors à un moment, les deux profs comédiens projettent des images de produits vendus en Turquie. Par exemple, de la mayonnaise. Ça s'écrit M-A-Y-O-N-E-Z.
En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son, une lettre.
En turc, quand vous entendez un mot pour la première fois, vous savez automatiquement comment il s'écrit. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres langues, comme le bulgare, le finnois, le croate, le serbe. Et c'est pratiquement le cas du néerlandais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand ou du grec.
En français, si on inventait un mot qui n'existe pas, comme le mot « créfission », de combien de manières différentes pourrait-on imaginer écrire ce nouveau mot « créfission » en français ? Alors, pour répondre à cette question, notre régisseur a écrit un petit programme, un algorithme qui permet de calculer toutes les orthographes possibles du mot « créfition ».
Voilà, au total, il existe 240 manières différentes d'écrire le mot « créfition » en français.
Ben voilà, pas de phonétique en français, évidemment.
Ouais, voilà. Et le spectacle montre bien que cette orthographe alambiquée, elle a des conséquences. Ouais. Hein. Le temps que les enfants passent à l'apprendre, du temps qui pourrait servir à la littérature, à la lecture, à d'autres modes d'approfondissement du français. Ce qui m'a troublée aussi, c'est de réaliser à quel point on a tendance à juger quelqu'un, son orthographe, plutôt qu'au fond de son discours. Pour les enfants, c'est souvent une souffrance liée à ce que les deux profs appellent l'insécurité linguistique.
Alors du coup, les enfants développent des stratégies. Quand je ne savais pas comment un mot s'écrivait, j'en cherchais un autre. Donc ça veut dire que je ne pouvais pas utiliser le bon mot à cause de son orthographe.
Moi je faisais pas comme ça, moi je faisais un pâté. Donc en fait quand je devais écrire le mot chariot par exemple, je faisais un truc tout pourri au milieu du mot, comme ça si le prof veut voir un, il y en a un, s'il veut en voir deux, il y en a deux.
Voilà la stratégie du pâté, beaucoup plus compliquée avec un clavier d'ordinateur évidemment. Bon évidemment ça nous parle à tous. On a voulu avoir l'avis d'un homme de lettres et j'ai appelé l'académicien Tahar Benjelloun, franchement réticent à l'idée de toucher à la langue française. Écoutez-le.
On joue avec, on peut jouer avec la langue, mais il n'y a que les poètes pour pouvoir, et encore, lui faire tordre le cou de temps en temps. Il faut respecter la langue dans ses incohérences aussi. C'est pas grave, ça fait partie de son charme. C'est une très belle langue. Hein. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas lui faire des entorses comme ça. C'est pas bien. Pas bien. Finalement, on peut tenter de simplifier certaines choses, mais il ne faut pas toucher quand même à la grammaire. Non, il ne faut pas toucher à ça. Bon, c'est pas toujours très logique dans le sens général, mais ce n'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est bien de dire la foi sans E et le foi avec E. Ça m'amuse, moi. Quand j'ai découvert ça, quand j'étais petit, je me souviens très très bien. J'ai rigolé tout ça. J'ai dit, mais ils sont fous, c'est français. Et pourtant, je l'utilise et je défends aujourd'hui.
Voilà, respecter la langue dans ses incohérences. Ne pas toucher à la grammaire, nous dit Tahar Benjelloun, Isabelle.
En fait, Sophie, le spectacle répond justement à cette objection. Il met en garde contre notre tendance à confondre l'orthographe avec la langue. C'est ce que m'a expliqué aussi un linguiste, Dan Van Remdonk. Il est prof à l'université de Bruxelles. Il a carrément fait une thèse sur l'usage de l'adverbe en français. Et lui, il souligne que l'orthographe n'est que le code graphique dans lequel on retranscrit la langue, comme la partition et les notes sont les codes pour retranscrire la musique. Et il ne faut pas confondre le code et la langue elle-même. Par exemple, lui, il n'a rien contre le langage SMS des ados.
Le langage SMS, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas un appauvrissement, c'est un enrichissement. Moi, j'ai appris une manière d'écrire. Et puis, dans les années 70-80, on a mis l'oral sur un piédestal. Et donc, on a appris à l'école la manière d'écrire, plus une manière de parler. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait plusieurs manières de parler, en fonction des situations de communication. Et qu'est-ce qui se passe avec l'avènement du clavardage, alors que ça existait déjà?
Clavardage.
Mais, oui, c'est-à-dire l'écriture à partir d'un clavier, c'est ce québécois. On se rend compte de quoi? Qu'il y a en fait une multitude d'écrits. Les jeunes ont une intelligence adaptative, alors qu'il doit être un peu affiné, mais qui s'adapte au support. Mais nous, notre rôle, ce n'est pas de dénigrer les variétés de français, c'est de les valoriser et de leur dire c'est valorisable dans tel contexte.
Ah, c'est effectivement un tout autre point de vue quand d'autres se désespèrent du niveau de langage que ça induit. En tout cas, c'est vrai que cette proposition de simplifier l'accord du participe passé en a fait bondir certains cette semaine en France. Vous l'avez entendu, Isabelle, depuis la Belgique. Pour être honnête, on a peut-être du mal aussi en France à se dire que la langue française pourrait évoluer sans notre accord à nous, français. Mais il faut se rappeler que la francophonie, c'est plus de 80 pays qui pratiquent le français à différents niveaux. Hein.
Oui, et ici à Bruxelles, les autorités francophones soutiennent la démarche. Hein. On s'attend à ce qu'une fois les élections communales d'octobre passées, la ministre demande aux profs et à l'administration de suivre de nouvelles règles d'accord pour le participe passé. Côté belge, on se rebiffe en fait contre cette mainmise de la France et surtout de l'Académie française sur l'orthographe. Écoutez le linguiste Dan Van Remdonk, qui est aussi le vice-président du Conseil belge de la langue française.
L'Académie française, elle n'est pas composée de spécialistes. Son rôle, c'était d'écrire un dictionnaire, pas de régner sur la langue. Et en tout cas, elle n'a pas le pouvoir pour dire « vous pouvez, vous ne pouvez pas ». Alors évidemment, comme il y a une espèce d'identification en France de la langue et de l'identité culturelle, il y a aussi une autre identification, qui est un hold-up pour moi, c'est l'orthographe et la langue. Donc vous touchez l'orthographe, vous touchez la langue, alors qu'en fait l'orthographe, c'est qu'une technique de transcription. Et du coup, il y a cette espèce d'institutionnalisation d'une espèce d'église, de cathédrale, qu'il faut vénérer, qu'on ne peut pas toucher, sous prétexte de « si vous touchez à ça, vous touchez à l'identité culturelle ». Ça, c'est typiquement français.
Alors, le Conseil belge de la langue française, qui émet des avis, demande la création d'une académie internationale. Elle réunirait des spécialistes francophones de tous les pays, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Europe, et ils se mettraient d'accord. Alors, la France fait un peu la sourde oreille. Pourtant, ça existe déjà pour la langue espagnole, par exemple.
sur cette idée d'une sorte d'académie internationale du français. J'ai demandé son avis à un autre écrivain qui nous a répondu depuis Port-au-Prince. C'est l'haïtien Lionel Trouillot. Pas très chaud, faut bien être honnête.
Je pense qu'il serait peut-être dangereux de vouloir justement, au-delà de certaines règles de base, trop imposer, créer une sorte de direction fédérale, de bureau fédéral de la langue, qui dirait à tous, voilà comment l'écrire, c'est-à-dire ce qu'on conteste légitimement à la France, est-ce qu'on va vouloir le refaire en créant une sorte d'instance laissant l'usage décider. Il faut faire avec le français comme on fait avec le créole.
C'est-à-dire... Vous savez,
le créole haïtien a des nuances au niveau de la graphie par rapport au créole martiniquais, au créole guadeloupéen, et le créole réunionnais, au niveau de la graphie, a aussi des nuances par rapport aux autres créoles. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de demander à tous les francophones d'écrire le français de la même façon. Et ce serait une manière d'ailleurs de taquiner un peu l'impérialisme français. Il y a un peu quelque chose qui est de l'ordre de la révolte. Ça m'a beaucoup amusé de voir comment ils traitent l'Académie française.
Ouais.
C'est une façon de dire pour nous, nous ne présentez pas l'autorité. Cette langue, nous utilisons et vous n'avez pas à nous dicter comment l'écrire ni comment l'utiliser. Ce n'est pas votre bien. Mmh. C'est le bien de tous ceux qui l'utilisent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense à une phrase de Roland Barthes qui disait qu'il ne faut pas exclure pour délit d'orthographe. Laissons les gens écrire la langue comme ils le veulent.
Voilà, que chacun se sente libre. Je voudrais préciser par souci d'honnêteté envers Lionel Trouillot qu'à propos de l'accord du participe passé, il m'a dit se méfier beaucoup de toute simplification qui lui semble vouloir tuer la nuance et la difficulté, une sorte de nivellement dans la facilité. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà pour ce petit dossier sur l'orthographe et la grammaire. Passionnant débat. Sachez que la pièce de théâtre conférence des deux profs belges continue de tourner. En Belgique, en France et en Suisse en 2019. Toutes les dates sont indiquées sur le site du nom du spectacle www.laconvivialité.com.
Europe 1.
Bon dimanche après-midi à l'écoute d'Europe 1, les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Et c'est le moment de s'évader. Nous sommes en Égypte.
Imaginez, il fait chaud, vous êtes sous le soleil, on est ensemble dans le Sinaï égyptien, une région désertique et montagneuse où peu de touristes s'aventurent alors qu'elle regorge de trésors et de mythes. Depuis 4 ans, les échos des affrontements entre Daesh et l'armée égyptienne tout au nord du Sinaï ont fait chuter le tourisme dans le sud, pourtant éloigné des combats. Alors pour attirer de nouveau les touristes autour du mont Sainte-Catherine, 8 tribus bédouines se sont associées, elles ont créé le plus long circuit de randonnée du monde. Ça s'appelle le Sinai Trail, 500 km. Je vous propose de parcourir les 30 premiers grâce à Ariane Lavrieux. C'est un parcours qu'on avait déjà emprunté ensemble vers la mi-novembre. Ouvrez grand vos oreilles, c'est un grand bol d'air, comme si vous y étiez. Reportage.
Là, il fait 26-28 degrés.
Ok, donc il est 10h. Et là, il fait déjà 28 degrés. J'ai un peu peur de la température à midi.
Non, mais quand on monte en altitude, on a plus de vent et plus d'air. Ok, les gars ?
Ouais, tout roule.
Je m'appelle Youssef et lui, c'est Aïd. On vient de la tribu Alegat. Donc là, on va grimper à Sarabit El Kadem par ce chemin là-bas. Vous allez voir, c'est très rocailleux.
La balade part d'un petit village bédouin, encore accessible en voiture, à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer Rouge.
L'électricité et la route goudronnée, ici c'est très nouveau. Ça a 10 ans, avant c'était la nature pure. Ok, bon là on est sur le chemin des ânes, parce que les Égyptiens, à l'époque des pharaons, ils traversaient le Sinaï par ici avec des ânes.
Et pourquoi, là, il y a des hiéroglyphes sur le rocher ?
Ah, c'est inscriptions pharaoniques. Ce sont des dessins de navires. C'est comme ça qu'ils arrivaient ici. Ils prenaient le bateau pour traverser la mer, le canal de Suez, et ils arrivaient jusqu'ici, à Dodane. Ils venaient pour extraire les pierres de turquoise et les ramener au Caire. Attention, il y a des pierres qui bougent.
Ah, et moi j'ai mon pied où j'ai une entorse qui glisse et il se tord toutes les 10 minutes.
Tu veux que je porte ton sac ?
Non, j'en suis pas là non plus.
Alors baissez un peu la tête par là. On est dans une grande cave. C'est ici qu'ils extrayaient les pierres turquoises. Donnez-moi un peu de lumière. Voilà, si vous voyez des petits points turquoises, c'est là la couleur.
Oh, waouh, ça brille avec la lumière.
Après 2 heures de marche, 600 mètres de dénivelé sur un chemin escarpé, nous voilà arrivés sur un plateau et plantés face à nous les piliers d'un temple en l'honneur de la déesse Hathor.
Sur chaque pierre, il y a un dessin de vache. C'est la déesse Hathor. Le temple est très exposé au vent et c'est pour ça que les stèles ne sont pas en très bon état.
Les pharaons ont décidé de construire un temple ici pour convaincre les Égyptiens de laisser leur famille, de laisser leur maison dans la vallée du Nil et de venir travailler ici, mais tout en ayant une bonne raison religieuse.
Ok, yalla.
Yalla.
Yalla, Yasmin. Yalla, Anwar, yalla, yalla, Gulfan.
Cette montagne s'appelle Ti.
Et Ti parce qu'il y a du thé?
Non, c'est parce que Ti, ça veut dire perdu en arabe. Et c'est là que Moïse s'est perdu avec ses compagnons pendant 40 ans.
Il y a combien de kilomètres entre nous et cette montagne?
10 kilomètres. Elle est très importante pour le Sinaï. Quand vous regardez une carte, vous voyez qu'elle va du golfe d'Aqaba au golfe de Suez. Ça coupe le nord du sud du Sinaï et personne ne peut la traverser. Il y a juste quelques passages étroits pour des chameaux.
Ah, c'est comme une barrière naturelle.
Oui, naturelle et déserte. Et là-bas, il y a des postes de l'armée qui surveillent le ciel, voir s'il n'y a pas des avions ou autres qui tentent de traverser. Il y a aussi des Bédouins qui vivent à côté. Ils savent détecter quand il y a des traces de pas d'un inconnu, donc c'est pour ça que c'est sécurisé.
C'est ma première randonnée dans le Sinaï. Je suis un peu fatiguée, mais heureuse. Pas de réseau, pas de Facebook, pas de WhatsApp, c'est vraiment relaxant.
Pour ramener des touristes ici, on a travaillé tous ensemble. Avant, on se rencontrait pour les mariages ou quand il y avait des problèmes entre tribus. Mais avec ce circuit de randonnée, on apprend les uns des autres. Moi, j'ai appris beaucoup sur les plantes en marchant avec la tribu des Baléas. Avant, j'utilisais le thym juste pour mettre dans le fromage. Et eux, ils m'ont appris que c'était bon à boire quand on a froid ou de la fièvre. C'est important pour nous. Et j'espère qu'on aura plus de touristes l'année prochaine. C'est une mine d'or ici, on veut juste que d'autres la voient.
Ah, on aurait bien continué la rando, mais du Sinaï, on est finalement allé au Caire, où Ariane Lavrieux était rentrée, pour parler de la situation de cette péninsule grande comme 2 fois la Belgique. Au sud, donc, on peut se promener dans un cadre magique. Quant au nord du Sinaï, le tableau est tout autre. Explication d'Ariane Lavrieux.
Depuis 2014, Daesh mène une guérilla contre les forces de sécurité égyptiennes avec des attentats meurtriers presque toutes les semaines. Ils sont concentrés sur une petite bande de terre de 250 km² à la frontière avec Gaza. Ouais. Il y a 10 mois, l'armée a lancé une nouvelle opération militaire avec des milliers d'arrestations, fermetures de routes, bombardements de maisons et de champs soupçonnés d'abriter des djihadistes. 35 000 soldats sont présents sur place. On n'en sait pas beaucoup plus car les médias y sont interdits. En tout cas, les conséquences sont très lourde pour les populations civiles, souvent victimes collatérales.
On a l'impression que ce que vous décrivez est vraiment un autre pays que celui où vous êtes allé vous balader.
C'est vrai parce que si Daesh a un petit peu de soutien au nord du Sinaï, il n'en a pas du tout au sud, qui vit principalement du tourisme. Et puis j'étais quand même à plus de 300-400 km du conflit, à la même distance, si vous voulez. Vous avez le site de Petra en Jordanie, où les touristes vont toujours.
Alors c'est justement pour encourager les touristes à venir que les Bédouins du sud ont créé ce trail du Sinaï il y a 2 ans. Est-ce que ça a permis de créer des emplois?
Oui, même si c'est encore à petite échelle, chaque randonnée d'une semaine avec 10 randonneurs, c'est au moins une vingtaine d'emplois directs, chameliers, guides, ravitailleurs. Ça fait vivre 5-10 familles pendant un mois. Et au-delà de l'intérêt économique, c'est aussi un enjeu culturel. Parce que s'il n'y a plus de touristes, les Bédouins vont devoir partir dans les villes pour travailler, vont perdre leur connaissance de la montagne, de la faune, de la flore. Ouais. Le Sinaï Trail veut préserver cette transmission de savoir. Youssef, que vous avez entendu, il a 30 ans, il a appris son métier par son grand-père et le transmet aujourd'hui à ses jeunes neveux.
Le Sinaï Trail, 500 km dans les montagnes du sud Sinaï, guidé par les membres de 8 tribus bédouines. Pas mal comme évasion, non ?
Europe 1.
À suivre, encore des voyages, cette fois dans les valises de notre ami Joseph Chovanec, qui remarque que nous n'avons pas tous les mêmes notions de l'hospitalité.
Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 avec Sophie Larmoyenne. Dernière destination dans ces carnets du monde, c'est l'Autistan.
L'Autistan, vous savez, c'est une contrée imaginaire, une manière de regarder le monde, parfois un peu décalée, plutôt très sage. Et celui qui nous y emmène chaque dimanche, c'est l'ami Joseph Chovanec, autiste Asperger, philosophe et surtout grand voyageur. Et comme la fin de l'année est propice aux réunions de famille, aux dîners entre amis, j'ai eu envie de réentendre avec vous ces réflexions de Joseph sur l'hospitalité, une notion très variable d'une culture à l'autre. Voici ce que Joseph nous racontait de son expérience de voyage.
Quand on passe sa vie à voyager d'un événement à l'autre dans des cultures très différentes, on constate que ce qui change, ce ne sont pas que les bâtiments ou la langue, c'est la façon d'accueillir l'autre qui change complètement. Et j'avais commencé à réfléchir à cela avant même de commencer à voyager à travers le monde. Un jour, alors que je suivais à Paris les cours inoubliables de sanskrit classique du grand érudit indien Gopabandhu Mishra, j'étais d'ailleurs son seul élève, il m'avait expliquer que l'invité se disait en sanskrit atithihi. Le mot m'avait fait un peu tiquer parce qu'il semblerait vouloir dire autre chose, littéralement quelqu'un pour qui le temps ne compte pas ou quelque chose comme cela. Mais on l'utilise quand même en sanskrit pour désigner l'invité car ce dernier n'est pas lié aux obligations temporelles. Quand il est là, le temps s'arrête, de même que les obligations usuelles de la vie quotidienne, car tout doit tourner autour de la vie.
C'est l'hospitalité 5 étoiles.
Oui, et ça m'avait paru un peu extrême, Sophie, je l'avoue à l'époque. Pourtant, c'est exactement comme ça que les choses se passent dans les régions où l'hospitalité conserve son sens traditionnel. Par exemple, le mois dernier, j'ai eu un séjour inoubliable à Dakhla. Alors, c'est au fin fond du Sahara, entre Mauritanie et Maroc. J'avais été ébloui de voir l'implication des gens. Quand un invité arrive, ce n'est pas que l'affaire d'une personne qui invite, c'est tout la famille au sens large, plus toute la tribu qui est appliquée et littéralement aux petits soins.
Et souvent c'est à table que ça se voit le plus, on met les petits plats dans les grands.
Oui, mais pas que. Il y a les cadeaux, on vous transporte à n'importe quel endroit dans un cortège de véhicules s'il vous plaît, etc. Et plus curieux encore, j'ai plus d'une fois eu l'impression que l'une des fiertés des familles c'était de montrer leur pouvoir ou leur implantation locale en offrant des passe-droits à l'invité. Par exemple, les habitants s'efforceront de faire l'impossible pour que les policiers de l'aéroport exemptent de contrôle l'invité ou qu'on lui fasse un accueil VIP dès la descente de l'avion, etc. J'avais vécu cela à Beyrouth, par exemple, mais aussi à un autre niveau lors de mes séjours dans la zone tribale du Sistan-Baloutchestan.
Ah oui, c'est en Iran, vous y alliez beaucoup.
Voilà, tout à fait. Et la famille de la prof qui m'accueillait là-bas faisait l'impossible auprès des autorités pour que je ne sois pas contrôlé au checkpoint, par exemple. Alors que théoriquement, les étrangers n'ont rien à faire dans ces contrées reculées. Mais Sophie, en Occident, c'est totalement différent. Il est exceptionnel en Occident que plus d'une personne vous attende à l'aéroport ou à la gare.
C'est vrai.
Souvent d'ailleurs, et surtout dans les grandes villes de ce que j'appellerais l'extrême Occident, personne ne vous attendra. On vous suggérera de prendre un taxi. Alors, pas que les gens soient méchants ou des monstres sans cœur, simplement, ils n'ont pas le temps. Ils préféreront travailler parfois pendant des heures en plus pour gagner de quoi vous payer le taxi plutôt que de vous ramener eux-mêmes.
Oui. Pour être honnête, Joseph, ça vous arrange un petit peu, vous, qu'on vous laisse vous organiser tout seul?
Oui, Sophie, je l'avoue, le fait d'être un peu moins entouré par mes hôtes en Occident n'est pas nécessairement désagréable. C'est moins exigeant sensoriellement, socialement, etc. Par contre, cela a un corollaire très frustrant. Quand je suis invité à des conférences en Occident, quasiment jamais on y ajoutera fera des visites dans la région. Alors même que le fait d'avoir un local pour guide permet en Afrique ou en Asie de faire les découvertes les plus surprenantes, qui d'ailleurs nourrissent les carnets.
Hein,
voilà. Mais peut-être que celui qui a trouvé la meilleure formulation de ce constat pourrait être cet habitant des îles Samoa, c'est dans le Pacifique, qui avait il y a longtemps déjà visité l'Europe. Il en avait d'ailleurs fait un livre qui avait été un best-seller. Voici sa conclusion. Les Papalangi, c'est-à-dire les Européens, sont tellement pressés qu'ils n'ont pas le temps de vivre.
Voilà, avis aux Papalangi que nous sommes et aux non-Papalangi aussi qui nous écoutent. Prenez le temps de vivre et d'être ensemble, notamment demain pour passer d'une année à l'autre. Sachez que sur Europe1.fr, vous avez accès à toutes les émissions de l'année écoulée et même des années précédentes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast. Merci de nous avoir accompagnés. Avec toute l'équipe, Sophie Mallier qui a réalisé cette émission et Florence Gimalac, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Sophie, on vous retrouve dimanche prochain dès 13h avec de nouvelles destinations pour 2019 dans vos carnets du monde. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat. Et de quoi allez-vous nous parler, Christophe, en ce dimanche après-midi?
Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure incroyable, l'histoire d'un parapentiste qui s'appelle Jean-Yves Frédériksen et qui décide à l'été 2016 de traverser tout l'Himalaya en parapente. Mais c'est plus qu'une histoire d'aventure. C'est un polar, vous allez voir. Il lui arrive des histoires incroyables à ce gars-là.
Merci Christophe, on vous retrouve à 14h sur Europe 1.